En octobre 2022, le JIP France Tiers-Lieu et l'Association Nationale des Tiers-Lieux organisaient Faire Tiers-Lieu, la première rencontre nationale des tiers-lieux. 4 jours pour donner à voir ce qui se joue dans les tiers-lieux et les transitions qui y sont à l'œuvre. 4 jours pour nous retrouver, nous rencontrer. Nous avons pris le temps des débats, de libérer la parole, de croiser les points de vue et d'assumer notre diversité. Nous étions plus de 800 acteurs du mouvement des tiers-lieux réunis dans le tiers-lieu Blida à Metz. Les participants sont venus de toute la France pour participer à 12 tables rondes participatives pour aborder les transitions portées par les tiers-lieux et les défis du mouvement. Plus de 30 ateliers collectifs, espaces de partage entre pairs et temps de travail sur des chantiers communs, 28 témoignages inspirants et 9 groupes de travail de l'Association Nationale des Tiers-Lieux. Faire Tiers-Lieux nous a permis de faire le point et d'écrire ensemble la suite de l'histoire des tiers-lieux. Nous vous proposons de redécouvrir en 5 épisodes les débats qui nous ont réunis au sein de l'Agora des tiers-lieux, créée pour l'occasion. Les tiers-lieux sont-ils des services publics? Peut-on vraiment faire écosystème? Quel équilibre entre exploitation des bénévoles et subordination des salariés? Faut-il institutionnaliser les tiers-lieux? Lucratif ou non lucratif? Quelle est la valeur des tiers-lieux? Autant de questions qui traversent notre mouvement et ont animé nos échanges. Épisode 4. Comment sortir de l'opposition stérile lucratif-non lucratif? Y a-t-il un modèle économique pour les tiers-lieux? Comment favoriser les formes d'organisation dans lesquelles l'argent est un moyen et non un but au service de l'intérêt général et des biens communs? Après le débat du premier épisode, les participants poursuivent les discussions au sein de l'Agora. La parole est libre, tout le monde est invité à s'exprimer.
Cette valeur, on va la garder chez nous et on va la mettre en partage entre les acteurs qui contribuent au tiers-lieu. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de faire des budgets ouverts et contributifs, c'est-à-dire la co-rémunération. C'est de dire, bah, cet argent, on va le mettre au milieu de la table. Et éventuellement, des gens qui auraient envie de contribuer, qui sont à l'extérieur et qui ne pourraient pas le faire parce qu'il y a un obstacle économique qui empêche leur contribution, on ne peut pas demander du bénévolat en permanence aux gens, et ben ils peuvent piocher dans ce pot commun pour se rémunérer. Et donc c'est ce cheminement-là qui nous a fait beaucoup réfléchir à mais qu'est-ce qu'on crée comme valeur dans nos lieux et qui est quand même un enjeu, je pense, important.
Un peu corollaire de ce que tu viens de dire, il y a aussi toute la notion de coût évité. Non seulement on produit de la valeur dont on n'est pas forcément conscient, mais il y a aussi des coûts évités. Et ça, c'est hyper important, notamment dans les tiers-lieux sociaux, mais pas que. Et pour rendre visibles ces coûts évités qui, par définition, n'existent pas, ça, c'est très difficile à faire entendre par une collectivité parce qu'ils vous disent « Bah ouais, mais en fait, c'est pas arrivé, donc pourquoi je financerais un truc qui est pas arrivé ?»« Bah oui, mais tu finances le fait que nous, on a agi pour pas que ça arrive. » Sachant que, voilà, donc c'est pas toujours évident, mais on a quand même créé un outil juridique qui s'appelle le bail commercial d'utilité sociale, qu'on a mis en œuvre dans un tiers-lieu social avec un bailleur social. Et derrière la ville, le CCS de la ville de Lille, qui est disponible sur Movilab d'ailleurs, en open source. Donc c'est ça aussi la logique de commun, c'est comment aussi on met en commun des choses qu'on a pu créer et on les rend disponibles, des innovations, on les rend disponibles pour d'autres parce que les autres vont s'en saisir et vont les améliorer. Et ça va nous revenir un jour. Hein, c'est qu'est-ce que je gagne dans l'affaire? C'est l'éternelle question de l'humanité. Ouais, d'accord, moi je partage des trucs, mais qu'est-ce que je gagne dans l'affaire et je veux pas me faire niquer? Donc, en langage technique. Non, mais c'est ça, hein. Parce que si moi je partage des choses et qu'il y en a un qui vient, il y a un loup qui arrive et qui chope ce que j'ai partagé, je me sens heurté dans ma personnalité, je me sens pas respecté, quoi, tout simplement. Donc, je suis pas heureux et c'est tout ce qu'on recherche. Donc, cette notion de coût évité, elle est hyper importante et c'est un bon exercice aussi, des fois, dans nos tiers-lieux, d'identifier quels sont ce qu'on a produit, bien sûr, mais ce qu'on a évité aussi.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie Floquet et je travaille avec Stéphane pour Signoco. Et Stéphane m'a demandé de le rejoindre pour répondre à cette question, notamment sur l'impact, puisque je suis en charge de la mesure d'impact pour Signoco. C'est une question vraiment intéressante. J'étais à l'atelier tout à l'heure sur le foncier où on nous demandait un peu quels étaient nos problèmes avec les collectivités, ce qu'on pouvait avoir à exposer. Et notamment dans la notion de partenariat, de travail avec les collectivités, si on se pose la question d'un moment donné devoir se présenter comme un acteur lambda, comment nous, on peut valoriser nos impacts, c'est-à-dire ce qu'on apporte au territoire, comment, sans forcément le monétiser, au moins ça peut permettre au tiers-lieu d'avoir un accès, soit au foncier, soit à une visibilité qui leur permet d'exercer ce qu'ils veulent faire tranquillement, sereinement, en paix sur un territoire et pour une longue durée. Et donc ce sujet-là, il est compliqué, il faut mettre du temps et des moyens. C'est une des choses que Signeoco fait déjà depuis 3 ans en ayant cette capacité à travers finalement la gestion de plusieurs lieux de prendre de la hauteur et de mettre finalement de dédier du temps à, au recueil de, cette, de ces externalités, on va dire, en tout cas de cette donnée dans un premier temps. Puisque si on veut aller au-delà, c'est-à-dire mesurer les effets sur le territoire de tout ce qu'apportent les tiers-lieux, il faut commander des études. Il faut mobiliser des chercheurs, des instituts, des gens qui vont prendre du temps et qui vont aller partout en France vous rencontrer, voir ce qui va se passer. Et donc pour ça, effectivement, non seulement on est aujourd'hui dans une situation où on a besoin de justifier, donc on nous demande des comptes, et en plus, il faut qu'on trouve des moyens pour ça. Donc collectivement, on peut s'organiser. Ça fait partie des chantiers de France Tiers-Lieux. Ça fait partie aussi d'une des missions que s'est confié les gens qui se sont réunis au sein de Communes Mesures, qui est un des premiers outils qui commence à travailler sur l'auto-évaluation, on va dire. Et j'ai envie de vous dire et de profiter du micro aujourd'hui pour peut-être vous dire, rejoignez-nous, travaillons ensemble sur cette écriture de commun sur l'impact, parce qu'on en a tous besoin pour défendre justement et expliquer la valeur que l'on crée dans les territoires.
Oui, je voulais revenir sur cette histoire de création de valeur. Moi, j'ai de quoi on parle, en fait. Et je vous donne une petite anecdote. Donc, quand j'étais à MLU, j'avais des travailleurs sociaux et je les ai tous reçus. Je leur ai demandé de me parler de leur travail. C'est quoi votre travail ? Voilà. Et j'ai eu des histoires absolument incroyables. Et des fois, ils me parlaient d'une personne qu'ils avaient accompagnée et que c'était inoubliable et que leur action avait permis de remettre cette personne sur les rails. Et quand vous entendez ces histoires-là, et qu'à la fin, le financeur vous demande de remplir des fichiers Excel avec des chiffres dedans, ça n'a aucun sens. Parce que l'histoire, et je m'en souviens encore de chaque, hein, c'est un univers. On n'additionne pas des univers, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est dans cette histoire de création de valeur, de rendre compte, d'impact. On est dans la dictature des chiffres. Hein. C'est la gouvernance des nombres d'Alain Supiot, là, bouquin que je vous invite à lire. C'est-à-dire, on est drivé par le chiffre, donc on est drivé, on retombe sur... Voilà, il y a des choses, il y a des impacts, et peut-être que les plus merveilleux impacts, on peut très difficilement en rendre compte, en fait. Donc cette dictature de rendre compte de votre truc a un impact, et que, enfin, je trouve que c'est un sujet... compliqué, mais qu'il ne faut pas se laisser enfermer, en tout cas pas dans les chiffres, en tout cas. Voilà. Donc ce que j'avais à dire sur la création de valeur.
Bonjour Geneviève Fontaine pour Tetris. Moi, c'est la logique même qui nous conduit à parler d'impact pour parler de nos lieux qui me pose problème dans la question qu'on pose entre lucrativité et non-lucrativité. Comme vous l'avez rappelé dans la table ronde, il y a quelques années en arrière, une action, qu'elle soit associative ou coopérative, mais quand elle devait rendre des comptes, parce qu'il est nécessaire éventuellement de rendre des comptes, ou en tout cas d'évaluer, c'est pas ça que je remets en cause du tout, elle devait mettre en évidence qu'elle avait bien mis en œuvre les actions qu'elle avait annoncées, et en tout cas, on avait donc une évaluation qui était basée sur les moyens mis en œuvre. Pour agir. Puis après, on est arrivé avec la gestion axée sur résultats, au début des années 2000, à devoir rendre des comptes sur des résultats. Et sont apparus un tas de tableurs, etc., parce que les résultats étaient essentiellement chiffrés et essentiellement progressivement même monétarisés. Et puis est apparue cette fable, moi j'appelle ça un mythe, hein, de l'impact. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement d'aller aux résultats, mais d'essayer de savoir à l'intérieur des résultats quelle est la part de ces résultats qui nous est due pour notre action propre. Analysons ce que ça nous fait. Ce que ça nous fait, c'est que avant, la valeur, elle était dans l'action. La valeur, elle était dans ce qu'on faisait, au quotidien, dans le chemin, dans l'accompagnement des personnes. Puis ensuite, elle a été dans des chiffres, repoussée un peu plus loin. Et puis maintenant, elle est encore plus loin. Elle est, la valeur, elle est bien après qu'on ait agi dans des impacts qui peuvent... voilà. Et le problème de ça, c'est que c'est la logique du marché. C'est cette question-là qui est appliquée. Le marché, c'est quoi ? C'est un endroit, c'est une logique où la valeur de ce que vous faites n'apparaît qu'à la fin. Quand vous produisez sur le marché, il n'y a que la mise sur le marché qui représente de la valeur. Et ce n'est pas notre mode de fonctionnement dans les tiers-lieux. La valeur que l'on crée, elle est chemin faisant. La mesure d'impact n'a rien à faire avec les problématiques sociales et les problématiques de tiers-lieux parce que c'est une erreur de logique. Voilà ce que j'avais à annoncer. Et donc, ne restons pas enfermés dans cette mesure d'impact. C'est une imposition. Je finis là-dessus. Pourquoi il y a de la mesure d'impact ? Parce qu'on a besoin d'un marché de la finance à impact. C'est du rating pour la finance à impact. C'est tout. Il faut rendre financiarisable le social et l'environnement. C'est à ça que sert la mesure d'impact social et environnemental. Et à rien d'autre.
Oui. Je voulais juste excuser Stéphane qui a dû partir pour prendre un train. Donc voilà, merci.
Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Pour moi, les contrats d'impact social, c'est l'enfer. Vraiment, c'est la financiarisation de notre activité. C'est très grave. Bon, c'est dénoncé par le collectif des associations citoyennes, je vous invite, hein, qui fait un observatoire sur la marchandisation. Et en plus, ça ne tient, prend pas en compte des lois, la loi de Goodhart et la loi de Campbell que j'ai découvert, qui disent que quand vous transformez une mesure en objectif, vous avez des effets pervers. Moi-même, je me suis occupée de chômeurs dans mon premier début de carrière professionnelle. J'avais des objectifs de résultats, comme elle dit. Mais quand vous êtes un professionnel aguerri, vous voyez quelqu'un entrer dans vos bureaux, vous savez tout à fait ce qui va se passer. Est-ce que vous allez passer 6 mois, 1 an ou 3 jours pour le remettre en emploi ? Bien évidemment, si vos statistiques baissent et que vous voyez arriver quelqu'un qui a l'air vraiment empêtré dans ses problèmes, vous allez faire en sorte qu'il va vers la sortie. Donc, dans ces histoires-là, c'est les plus vulnérables qui trinquent. Et après, on peut parler en détail des contrats impact social, mais je suis d'accord que ce drive par les résultats, quand on parle de l'humain, quelque part, ça n'a aucun sens. Parce que en quoi, moi, on va dire, bah, vous remettez les gens en emploi. Mais si j'ai 50 personnes en dépression nerveuse qui arrivent dans mon bureau, et bien mes taux, ils vont chuter. Est-ce que c'est moi qui suis responsable de ça ? L'important, c'est que je les accompagne le mieux possible. Donc je suis d'accord qu'il faut se focaliser et refaire confiance aux professionnels. Parce que même les psys, maintenant, ils doivent rendre compte de tout, les médecins dans les hôpitaux. Enfin, c'est le new public management, c'est du délire, cette histoire-là, quand même. Hein. Et ça coûte un fric de dingue, en plus. Hein. Donc c'est censé être là pour nous économiser de l'argent, mais ça coûte un pognon de malade. Voilà. Bon,
je te rejoins et je vais aussi dans ton sens. C'est-à-dire qu'il y a une dérive terrible de vouloir étalonner, on va dire, les entreprises ou les structures qui ont une mission d'utilité sociale vers des critères d'impact. Je suis complètement d'accord. Après, nous, la manière dont on l'a appréhendé quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, parce qu'en fait, on ne peut pas tellement l'éviter. Il y a deux choses. On y a vu une vertu de pilotage, c'est-à-dire que le fait d'être capable de recenser ces pratiques, c'est ce que tu disais, c'est ce processus, d'être capable d'archiver, enfin de garder un historique de ce qu'on fait.
C'est de l'auto-évaluation, quoi.
Ouais, exactement.
Déjà. Mais déjà, pour soi-même.
C'est pour soi-même, c'est pour le pilotage du projet, c'est pour s'assurer qu'en fait, par rapport à ce que tu t'es fixé comme mission d'utilité sociale, tu vas arriver, parce que tu es sollicité dans tous les sens, parce que les équipes travaillent énormément, etc., tu vas arriver régulièrement à recentrer vers les choses qui, alors, ont une vertu à être décentrées, mais une vertu aussi à se recentrer sur le chemin. Et le deuxième effet, c'est cet effet qu'on crée tous aujourd'hui avec ces premières rencontres, c'est ce narratif, c'est cette capacité à raconter, ce que tu disais tout à l'heure, Catherine, sur l'anecdote de « j'ai aidé quelqu'un et je m'en souviens à vie ». Comment, et vraiment, je n'ai pas la réponse, comment aujourd'hui cette Bible, cette littérature, ce récit des anecdotes qui se produisent en fait dans énormément de lieux, on arrive à le raconter parce que quand en face, effectivement, et ce n'est pas pour des financiers en particulier, ça va être vraiment l'illustration de l'atelier sur le foncier, c'était voilà, vous avez une collectivité, il va falloir lui prouver par A plus B que vous pouvez occuper un espace qu'elle vous mettrait à disposition, parce que qu'est-ce que vous allez y faire ? Vous allez y faire des actions, et comment vous allez travailler et vous mettre d'accord sur un certain nombre de choses que vous allez faire ensemble, comment vous allez décrire ce que vous faites, Et je pense que ce rôle de responsable de l'impact que j'ai chez Signoco, je ne le prends pas tant pour rendre des comptes à des financiers que pour écrire une histoire, contribuer à écrire une histoire, un narratif et laisser des traces. En tout cas, c'est la manière dont on l'envisage, nous.
Bonjour, moi je m'appelle Diane et je m'occupe d'un projet qui s'appelle les petites cantines. On aide les habitants à monter des cantines de quartier qui sont non lucratives et qui ont trois caractéristiques. Elles sont participatives, en alimentation durable et à prix libre. C'est-à-dire que l'ensemble du modèle économique est fondé sur le prix libre. Et on travaille activement à la transformation du paradigme, à la transformation des imaginaires dont tu parlais, à la transformation du récit. Et nous, ce qui nous aide, c'est de nous centrer autour de la création de richesses, mais de la création de richesses relationnelles. Pour nous, c'est ça qui va venir remplacer d'autres valeurs fondamentales comme la performance ou la création de richesses financières ou d'autres créations de richesses. On ne les met pas de côté parce que parfois c'est important d'être performant, parfois c'est important d'avoir de la création de richesses monétaires, mais on oublie qu'il y a une richesse avant ces richesses et qu'elle découle de la richesse relationnelle. Et on ne veut plus que cette richesse relationnelle soit un surplus quand on n'est pas trop épuisé ou quand on a assez d'argent pour manger ou quand je ne sais pas quoi. On veut que ce soit le socle et que donc l'ensemble de nos modèles, qu'ils soient éducatifs, en politique publique ou alimentaire ou je ne sais pas quoi, ou simplement l'organisation de la vie au travail, que ce soit organisé autour de cette première création de richesse relationnelle. Ensuite, comment ça se traduit ? Et on essaye à chaque fois de regarder de mesurer les items qui vont nous permettre de caractériser tout ce qui va relever de la confiance. Parce qu'on a vu que, qu'il s'agisse du rapport à soi, du rapport aux autres, du rapport au monde, en fait, il y a toujours à la base de la création de richesses relationnelles la notion de confiance. Donc nous, comme on est autour du repas, et que c'est un moment privilégié pour ça, on va regarder sur l'estime de soi, par exemple comment le choix des aliments va pouvoir être corrélé avec l'estime de soi. On va travailler sur le sentiment d'appartenance, on va travailler sur le bien-être sensoriel, sur l'accomplissement de soi, etc. Donc, plein de choses. Et on va aussi travailler sur la confiance dans de nouveaux modèles socio-économiques. Comme ce sont des lieux ouverts à tous, ce sont des lieux d'expérience. Donc ce sont des lieux qui sont privilégiés pour que nous tous qui avons envie de baisser les bras face à un système qui s'effondre et dont on voit bien à quel point il est déshumanisant, on puisse aller vivre une expérience de transformation. Donc quoi de mieux que le repas pour la transformation émotionnelle? Et c'est là qu'on vient proposer l'expérience du prix libre. Donc chez nous, l'adhésion est à prix libre, le repas est à prix libre. Tout le monde donne quelque chose, mais chacun donne ce qu'il veut. Et chaque cantine est en autofinancement. Ça veut dire qu'une cantine, une fois qu'elle est ouverte, elle n'a plus besoin d'aller chercher des subventions d'exploitation, qu'elles soient privées ou publiques. Elle est autonome sur son fonctionnement à tous les niveaux. Ça peut arriver qu'il y ait besoin de subventions ponctuelles, mais en général, c'est une demande qui vient des collectivités ou d'un collectif de partenaires pour répondre à un projet ponctuel sur un territoire auquel personne ne sait répondre. Ça, ce n'est pas une demande, il n'y a pas une activité de recherche de fonds de la cantine quand elle fonctionne. Il y en a besoin pour les investissements, mais pas pour l'exploitation. À ma grande surprise, quelle est l'expérience en caisse que nous vivons ? Je pensais que les gens, quand ils allaient arriver en caisse, ils allaient nous demander « Ok, c'est à prix libre, alors combien ça vous coûte de faire un repas comme ça ?» Et en fait, les gens nous demandent « Ok, mais combien donnent les autres ?» Et en fait, je réalise à quel point tout notre rapport à l'économie a été perverti. À quel point on a oublié que commercer, c'était entrer en relation avec les autres. À quel point on a oublié le rôle de l'argent dans la notion de don, de troc, etc. Et du coup, on est en pleine mission d'éducation en cantine. Et il faut commencer par s'éduquer soi, ce qui est le plus dur, en fait, pour d'abord permettre à chacun de conscientiser la valeur perçue. C'est-à-dire, à force de donner un prix à tout, on ne sait plus la valeur des choses. Je ne sais plus qui a dit ça, Oscar Wilde ou quelqu'un comme ça. Mais en fait, à force d'aller à l'hôpital et que tout soit gratuit, on ne sait même plus quelle est la structure de coût des choses. À force de payer des portables des centaines d'euros, on ne sait plus à quoi ça... Et en fait, ça, moi, j'appelle ça l'économie selfie. C'est-à-dire l'économie qui, au lieu de renvoyer à des besoins fondamentaux que nous partageons tous, ça renvoie juste à des mécanismes de désir et de comparaison poison, en fait, pour renforcer mon sentiment d'exister et mon sentiment de sécurité. Et en fait, tout ça, c'est juste des rustines pour répondre à notre besoin de nous sentir reliés les uns aux autres. Et du coup, c'est pour ça que j'appelle ça l'économie selfie, c'est qu'au lieu que ce soit une économie au service de la relation, ça va être une économie qui me met dans une espèce de clôture égocentrique qui va me faire aller de frustration en frustration, en fait. Donc on fait ça. Quand les gens arrivent en caisse, ils disent « Combien je donne ? Je sais pas. Moi, je suis complètement stressée. J'ai peur du regard de l'autre. Est-ce que je vais être jugée ? Je suis complexée de pas donner assez, etc. » Mais toi, dis-nous, comment tu as vécu cette expérience ? À quoi tu le comparais ? Qu'est-ce que ça t'a fait, etc. Et en fait, on s'entraîne à avoir une expérience de non-jugement quand on est de l'autre côté de la caisse. À ne pas avoir une pluie de remerciements pour la personne qui va donner 100 euros pour son repas ou un regard un peu coincé quand quelqu'un nous donne 1 euro pour le repas en disant si tout le monde faisait comme ça, même avec sa cravate, en plus il a l'air super à l'aise, lui, financièrement, si tout le monde faisait comme ça, on coulerait la cantine, il n'y aurait plus aucun impact social. Donc comment maîtriser ses sourcils, maîtriser ses rictus, maîtriser ses éléments de langage, simplement renvoyer à un cadre visuel avec des dessins, des trucs comme ça, où on efface tout ce qui est de l'ordre de la croyance de notre rapport à l'argent. Et on remet chacun face à une façon de se responsabiliser qui n'est pas si facile et qui n'est pas si confortable. Et ça, il y a un gros truc à travailler. Ensuite, moi, je me suis aperçue que c'était difficile parfois pour les projets à impact qui sont fondés sur une grande partie de bénévolat, de conscientiser leur structure de coût, de fixer leur coût de revient. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de projets qui avaient plein de coûts cachés, en fait, parce qu'ils ne disent pas quelle énergie ça prend, et en fait derrière il y a des burn-out, il y a des choses qui sont fait bricolo-bricolette, il y a des choses, etc., en fait, qui ont un coût à côté, mais simplement parce qu'on n'a pas cette capacité qu'a le secteur de l'activité de l'économie traditionnelle à bien mettre un coût sur chaque chose. Donc je pense qu'il y a des choses à acculturer sur la capacité à être transparent sur notre structure de coût. Et je termine juste avec ça. Donc la conscientisation de la valeur perçue, il y a la capacité à fixer une structure de coût transparente et la capacité ensuite à donner confiance dans le modèle. C'est-à-dire, c'était pas venu juste dans une petite cantine qui a fonctionné pendant 4 mois sur le prix libre. Ça fonctionne depuis 6 ans. Et non seulement il y en a une, mais il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e va ouvrir à Metz dans 2 semaines. Et elle fonctionne sur la durée, en fait. Donc ça veut dire on peut faire confiance dans ces modèles. On a besoin de chercheurs qui apportent un socle scientifique à ces modèles et il est possible de le diffuser à plus large échelle pour rebâtir des modèles socio-économiques durables là-dessus.
Ce que tu évoques... Je sais pas si vous m'entendez. Ce que tu évoques, en fait, c'est très intéressant et ça a été travaillé par les réseaux de l'économie sociale et solidaire depuis une vingtaine d'années. Je pense notamment à l'alterguide de l'évaluation de l'utilité sociale qui a été réalisé, c'est un guide que vous trouvez sur internet, alterguide de l'évaluation de l'utilité sociale, où vous avez des AMAP, de l'habitat groupé et un club Cigale, un club d'investisseurs solidaires, qui ont été évalués avec une méthode qui est une méthode d'évaluation par les parties prenantes. Ça veut dire quoi ? Tout à l'heure on a dit, en gros, je vous la fais courte, mais d'un côté du spectre, donc tous les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là depuis 20 ans, il y a l'ESSEC qui dit qu'il faut tout monétariser, c'est-à-dire on met des euros sur toutes les aménités, tous les impacts qu'on va produire, avec les problèmes que Geneviève évoquait. À l'autre bout du spectre, plutôt la tendance économie sociale et solidaire, c'est de dire, en fait, comment on définit le bonheur ? Comment nous six, là, on pourrait définir le bonheur ? Comment on pourrait définir que quand je vais à les petites cantines, ça me plaît, en fait. Et c'est très difficile. Nous, dans les outils qu'on fait, des fois, on dit on va évaluer la satisfaction des personnes. Le fait qu'ils se sentent plus heureux avec le tiers-lieu que... Alors là, ça fait un peu... Les financeurs, ils nous regardent en disant mais comment vous allez faire ça ? En fait, on leur demande. C'est-à-dire qu'on les met autour de la table. Donc toi, t'es salarié, toi, t'es financeur, toi, t'es la collectivité, toi, t'es l'usager, toi, t'es le bénévole. Moi, je suis quelqu'un d'autre encore. Je suis l'entreprise fournisseur, par exemple. Et on va tous dire qu'est-ce que nous apporte ce projet. Et c'est nous qui allons définir, en fait, nos critères et nos indicateurs. Et c'est nous qui allons dire... Et si toi, tu dis, c'est plutôt pas mal. Moi, ça, je suis contente. Moi, je suis contente aussi. Tout le monde est content. Alors, du coup, ça veut dire que c'est pas mal, en fait, ce qu'on fait. voilà, cette méthode des parties prenantes, vraiment, je vous conseille d'aller voir. Il y a une littérature assez importante. Il y a même un programme européen, il y a quelques années, qui a été mené, qui s'appelait VISE, V-I-S-E-S, qui a regroupé plus de 30 structures en Europe qui ont travaillé sur ces questions-là, avec l'ESSEC et les tenants plutôt de la... Donc, c'est pas la peine de réinventer la poudre. Il y a déjà énormément de matière là-dedans. Franchement, aller piocher là-dedans, et c'est toujours un peu dommage, moi, quand je vois les entreprises... dites classiques qui réinventent un truc, je dis mais allez voir ce que les copains de l'économie sociale ont fait quoi. Enfin, il y a aussi des choses intéressantes à aller voir de ce côté-là.
Ouais, je vous remercie. Je suis tout à fait d'accord. Nous, sur Tetris, enfin dans l'association éducation populaire qui anime Tetris, on fonctionne à contribution libre parce que même on a remarqué que le fait de poser le vocable de prix posait problème. Et pour ouvrir justement à la contribution non monétaire dans le modèle économique, et on constate les mêmes choses. Ce que je veux dire, c'est pourquoi a-t-on besoin, pour décrire ce que vous décrivez, d'utiliser un terme qui a été forgé par le monde de la finance? Pourquoi a-t-on besoin de dire que l'on fait une action à impact alors que on a la notion d'utilité sociale qui existe aussi bien au niveau de la fiscalité, au niveau de la loi sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui est cadrée, qui a des outils pour... pourquoi ? Et moi, je dis qu'on se fait du mal en mobilisant un terme qui contient des présupposés, qui contient une représentation du monde qui est celle de la finance mondialisée. On n'a pas besoin... pour décrire ce qu'on fait, surtout qu'on n'a jamais les moyens de faire réellement une mesure d'impact. Donc arrêtons de se dire, voilà, stop, on ne peut pas la faire. Parce que ça supposerait qu'on prenne un tiers-lieu équivalent au vôtre, d'un point de vue méthodologique, et que lui ne fasse rien, que vous fassiez des choses et qu'on puisse faire... Voilà. Donc on sait bien qu'il n'y a pas deux tiers-lieux équivalents. Donc c'est même méthodologiquement, c'est une erreur logique, c'est une erreur méthodologique. Et on n'a pas besoin de mobiliser des termes qui ne relèvent pas de notre imaginaire. Surtout pas si on cherche à changer d'imaginaire.
Je comprends et je suis pas loin d'être d'accord. Mais je vais faire un parallèle avec... il y a 2 ans, on a essayé de faire notre mesure d'impact carbone. Aux petites cantines. On est passé par une start-up qui s'appelle WeCount et qui mesure ça. Et ils nous ont montré qu'on avait un impact carbone bien meilleur, c'est-à-dire bien plus faible, si on proposait de la viande à table régulièrement plutôt que si on n'en proposait pas. C'est contre-intuitif. Mais en fait, ils ont fait jouer tous les paramètres et ils ont montré que, OK, dans nos... mesure d'évaluation, on voit qu'on a un convive sur deux qui nous dit que, grâce à son expérience aux petites cantines, il modifie son comportement alimentaire. Et du coup, si on ne met pas de viande, ces gens-là, en fait, ils ne viennent pas. Et du coup, on a un meilleur impact en les accueillant et en adoptant, en allant les chercher là où ils sont, en fait, en les prenant là où ils sont, et pas par le biais de... comment dire ? C'est un peu comme... Il y en a qui sont des pionniers, des militants et qui sont loin devant. Et il y en a qui sont un peu derrière et qui vont être plus dans... Allez, on fait avec ce qu'on est. Nous, on est plus à cette étape-là du chemin. Il y a des gens qui nous montrent le chemin, mais nous, on est un peu derrière avec ceux qui sont un peu... voilà. Et c'est pareil avec la mesure d'impact pour moi. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on fait le choix d'utiliser le vocabulaire ambiant pour amener à une prise de conscience qui change le paradigme, en fait. Mais on n'est pas... loin devant, on est avec, voilà.
Je suis d'accord. Enfin, la question je vois toujours pas en fait quelle est la nécessité que l'on a de mobiliser un vocabulaire qui nous vient droit de la financiarisation des politiques publiques. On n'a pas, pour décrire tout ce que vous décrivez et pour en rendre compte par un récit construit, etc., Les mots ont un impact sur nos imaginaires et les mots véhiculent des choses. Ils ont une influence et ils véhiculent des choses qui peuvent venir tamponner ce qu'on fait. Qui parmi vos clients parle d'impact ? Personne. C'est parmi vos financeurs ou parmi des gens, mais c'est pas la priorité. C'est pas ce que les gens. Et donc restons, je dirais, avec un vocabulaire et avec des choses pour traduire ce que l'on veut faire sans emprunter aux logiques et aux propositions, et comme c'est marqué sur la question, hein, les propositions, les méthodes et le vocabulaire du marché, quoi.
Alors, de mon côté, j'ai une question qui est un peu plus terre-à-terre et un peu plus pratique. On sort un peu de ce débat-là qui vient d'avoir lieu, mais elle concerne aussi la lucrativité, et on se la pose avec ma collègue Laura depuis deux jours, enfin on se la pose depuis un peu plus longtemps, mais c'est une question qui est liée à la lucrativité et à la fréquentation de nos lieux, notamment sur les ateliers partagés ou les ateliers avec de la production, sur la question de la tarification de ce qu'on peut faire. Donc on est manufacture, il faut produire et pouvoir écouler cette vente pour avoir un modèle économique et aller chercher de la lucrativité sur cette activité-là. Nous, ça nous pose un petit souci en termes de qui va pouvoir acheter ce qu'on produit dans des ateliers aujourd'hui. Si on va sur de la production qui est accessible, on va directement se faire dépasser par des industries qui ont des effets d'échelle, qui font qu'ils réduisent les coûts et qui peuvent produire pas cher. On ne peut pas aller sur ce secteur-là, nous. Et aujourd'hui, dans les modèles économiques qu'on cherche dans les ateliers, on se retrouve à devoir faire de la production d'objets d'art, de la production avec de la forte valeur ajoutée qui ressort très cher. Ça, c'est un objectif, c'est sur de la production, mais on retrouve parfois ça sur d'autres secteurs d'activité. Et donc, est-ce que si on ne va pas chercher la lucrativité, nous, sur nos manufactures, sur ce système-là, on ne va pas avoir seulement des gens CSP+, sociologiquement assez homogènes, quoi. Et c'était une question sur l'ouverture, parce que aussi une question que je me posais un peu, et elle déborde peut-être ici.
Toi, tu veux dire, en fait, du profit, générer du profit sur des produits pour pouvoir le réinvestir pour que des gens rendent accessible le service à des gens qui n'ont pas les moyens.
C'est ça. Parce qu'en fait, le public cible de nos structures, c'est aussi des publics qui sont en difficulté économique et en difficulté sociale. Et aujourd'hui, on a du mal à produire des choses pour ce public-là parce qu'on n'a pas le modèle économique adapté, quoi. Donc voilà, c'était
Alors, une
question d'ouverture aussi.
Attention, c'est parce que lucrativité, profit et lucrativité, ce n'est pas la même chose, hein.
Ouais, le profit, tout le truc.
On veut générer du profit. J'espère que tout le monde dans la salle, on est d'accord pour dire qu'on veut générer des profits, des excédents. Alors, dans les associations, on dit excédents. Le vrai mot, c'est profit. C'est parce qu'en anglais, profit, ça veut dire lucre. Mais on veut des profits financiers parce qu'on a besoin d'acheter des chaises, des tables, payer des gens normalement, tout ça. Des profits économiques, des excédents, si tu veux. Des profits environnementaux, on veut améliorer, pas, en tout cas pas dégrader, voire même améliorer peut-être nature, etc. Et des profits sociaux, évidemment. Donc, quand ces profits sont réinvestis dans la structure, on est dans l'économie sociale et solidaire à 100%, ou fortement, hein, y a pas de lucre. Y a pas de, voilà. Le lucre, c'est quand ces profits atterrissent dans la poche de quelques-uns, parfois à l'autre bout de la planète. Donc voilà. Après, toi, ce que tu dis, c'est avant ça, en fait. C'est avant ça, c'est dans le modèle économique, finalement, comment on peut compenser et comment je peux rendre accessible mon service à tout à chacun. Bah, y a une dimension économique qu'on a inventée pour ça, ça s'appelle l'économie de redistribution. C'est-à-dire que la subvention, elle vient aider à. Voilà. Alors, ça peut être une subvention, un truc qu'on ne fait jamais en France, et c'est dommage. Si je fais un parallèle avec le monde agricole, il y a des subventions à la production, ce qui fait qu'on incite des agriculteurs à faire des produits de piètre qualité qui se retrouvent après dans nos estomacs. Si on faisait une subvention à la consommation, les agriculteurs seraient fiers de fabriquer des objets de bonne qualité. Il y aurait une vraie, pour le coup, concurrence libre et non faussée. Mais à la fin, ce qu'on veut, c'est que le consommateur puisse avoir accès à ce bœuf de qualité local, qui a plus consommé beaucoup moins de carbone que le bœuf qui vient de je sais pas trop où, etc., etc. Donc, la subvention, c'est un moyen. Voilà, tout simplement. Il y a une autre, alors subvention publique, subvention privée. Ça existe aussi, hein. Il y a aussi des fondations, Et après, il y a aussi un dernier outil, là, qui est plutôt dans une autre dimension économique, l'économie de la réciprocité. c'est les monnaies locales, mais tu connais bien parce que je pense que vous avez mené tout un travail sur les monnaies locales, les monnaies complémentaires, bon, qui n'est pas simple, hein, on est d'accord, mais qui peut être porté, qui doit être porté d'ailleurs, par un ensemble, et je pense que pour essayer de clore un peu aussi, parce que l'heure tourne et on a des ateliers derrière, que ça soit les mesures de l'utilité sociale ou de l'impact, on l'appelle comme on veut, que ça soit l'affectation des profits en dividendes ou en... voilà, que ça soit... etc. Ça, on ne peut pas le faire seul. Il faut le faire avec un maximum de parties prenantes. Et à partir du moment où on le fait s'évaluer, s'auto-évaluer nos procédures internes, etc. À partir du moment où on le fait collectivement avec des gens différents qui ne se ressemblent pas tous et qui n'ont pas tous Bac plus 5, bah, là, on commence à arriver à cette utilité sociale finalement et à une évaluation qui est saine et rationnelle.
Et pourquoi tu... Je ne sais pas quel est ton prénom. Benjamin. Pourquoi tu ne proposes pas tes produits à prix libre?
Parce qu'il y a le coût de production.
Ben ouais, parce que mon salaire n'est pas à prix libre, quoi. Puis, il faut que...
Il y a le coût de production.
Ou si on venait dans un système où il faut justement éviter la subvention, enfin, on nous incite à faire ça. Voilà, même si je ne suis pas payé cher, ça a quand même un coût, quoi.
Mais moi, je te parle de cantines qui ont toutes des salariés avec des cadres, des loyers en CDI, des loyers qui peuvent être parfois jusqu'au prix du marché quand on est à Paris ou à Annecy, avec des charges, avec l'inflation, etc. Et on est à prix libre et ça marche. Et
ça, moi, dépend, je pense, des produits qui sont... voilà.
Non, mais tu peux indiquer une structure de coût et proposer quand même à prix libre. Déjà, mon rapport d'étonnement, c'est de voir qu'un tiers des personnes dites en précarité économique donnaient plus que ce qu'on pensait qu'elles allaient donner. Donc déjà, ne nous mettons pas à leur place dans leur rapport à l'argent. Parfois, on est étonnés de ce qu'ils mettent dans des forfaits de téléphone portable, dans des scooters, dans des trucs comme ça. Donc déjà, parfois, on plaque. Et ensuite, on invoque de nos voeux un changement de paradigme de société. Et est-ce qu'on se l'applique à nous-mêmes? Est-ce qu'on met en œuvre pour nous-mêmes la notion de confiance qu'on veut voir advenir dans la société? Moi, je te dis un truc, au pire, ça marche. Essaye, au pire, ça marche.
Ouh. Alors, juste avant de laisser le mot de la fin à Sébastien, merci beaucoup. Peut-être vous dire que sur une feuille, je ne sais pas où, on pourrait noter toutes les références qu'on vous a évoquées. Il y a un... Voilà, avec Alain. Vraiment, il y a énormément d'outils qui ont été créés, qui existent, etc. Sébastien va nous parler de la co-rémunération. On va vous mettre des références, c'est Movilab, tout se retrouve sur Movilab, c'est la croisée des chemins, c'est notre chambre commune.
C'est notre wiki.
Notre wiki à nous. Donc utilisons-le, améliorons-le, mettez vos outils en Creative Commons sur ces... c'est pas donné, hein, c'est mis en Creative Commons. Là aussi, les licences, on pourrait en parler, les licences ouvertes. Donc mettez vos références, si vous en avez vous-même et ceux qui ne se sont pas exprimés, n'hésitez pas à les noter aussi sur le paperboard.
Non, c'est fini. C'est fini, mais si vous voulez parler, parce que le prix libre, c'est pas de l'ubérisation, c'est pas du travail social au rabais, c'est juste d'autres pratiques, en fait. Et donc, nous, on l'a pratiqué dans certains collectifs. Donc, si vous voulez en parler, on peut se retrouver à l'espace contribution là-bas et vous raconter les expériences de co-rémunération et de prix libre qu'on a menées dans nos tiers-lieux. Voilà.
Merci à tous.
Un grand merci à tous nos partenaires, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Banque des territoires, la région Grand Est, l'Eurométropole de Metz, le réseau régional des tiers-lieux en Grand Est et le tiers-lieu Blidac, qui par leur soutien ont rendu possible la réalisation de cette rencontre nationale. Merci également au Media Lab du WIP pour l'enregistrement et la production de ce podcast. Merci pour votre écoute et si vous souhaitez poursuivre les débats, n'hésitez pas à rejoindre l'Association nationale des tiers-lieux.